Nous sommes le, au mois de juin, nous sommes le combien aujourd'hui?
Le 9, je vois. Le 9 ou le 10.
Le 10, oui. Oui. Hello, brother. Hello. Aujourd'hui, chers amis, c'est la prédication numéro 70 de cette année 2022. Pour ceux qui ont besoin de mettre un chiffre et de s'y retrouver, pour pouvoir la renseigner à quelqu'un d'autre, c'est la prédication numéro 70, 70 pour les Belges. Je vais commencer par la lecture d'un psaume, chers amis. Pourquoi? J'étais tout à l'heure dans la voiture. J'avais conduit des réfugiés ukrainiennes, des personnes. Un garçon de 11 ans, une fille de 9 ans et leur sœur de 22 ans au magasin, dans d'autres magasins. J'étais dans la voiture en train de lire ma Bible quand j'ai lu des textes qui vont un petit peu en relation avec la prédication qui va suivre. Le psaume 21. Que la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit vous conduise, que les anges de Dieu vous protègent, que la puissance de la foi s'exerce dans votre vie, qu'elle efface les doutes, les peurs, les craintes, que la puissance du Saint-Esprit vous donne la sagesse, en même temps que la prudence, dans ce monde difficile. Que Dieu vous accorde sa paix et sa joie, la gloire de sa grâce dans votre cœur, pour vous inonder de sa lumière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 21. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. J'ai trouvé remarquable ces versets. Je les avais déjà lus, mais il y a un jour pour être frappé par un verset, pour être touché. Il y a toujours un jour où un verset vous touche plus qu'un autre. Et tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. De l'or pur, purifié. C'est L'or pur, purifié, c'est la représentation de l'adoration, de la véritable relation, d'intercession, la relation sacerdotale du croyant avec son Dieu, son Père. C'est quelque chose qui couronne sa tête, c'est la gloire de Dieu en lui qui agit pour qu'il soit un adorateur en vérité et en esprit, comme Jésus l'a demandé. Verset 4, tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or. Et pensez, oui, bien sûr, Paul souvent dit que le chrétien fidèle aura des couronnes. Et nous voyons aussi dans l'Apocalypse que les élus dans le ciel jettent leur couronne au pied du trône de grâce, au pied du trône de Dieu. Bon, il y a deux façons de comprendre ces couronnes. La couronne chez les Grecs était une couronne de laurier qui était posée sur le vainqueur lors des compétitions, dans les Jeux, qui se passaient dans 5 villes différentes. Des compétitions très dures, très exigeantes, où les hommes couraient nus, nus, sous le soleil. Et parfois, ça durait toute la journée, ils faisaient des kilomètres, il y avait toutes sortes d'épreuves. Et celui qui gagnait avait une couronne simplement de laurier. Le laurier est une plante. Et il la recevait, il était bien sûr enorgueilli, satisfait. Bon, mais il y a une autre couronne. Il y a une autre couronne. C'est la couronne des rois, des reines. Et puis, il y a la couronne du ciel. La couronne du ciel, c'est celle que Dieu pose sur la tête de ceux qui ont aimé, servi, qui ont obéi à Christ, qui ont répondu à l'appel de Dieu pour rendre service dans le royaume de Dieu. Bien sûr, il y a des chrétiens, ils sont sauvés par grâce, ils ont confessé Jésus-Christ, ils ont accepté Jésus-Christ, mais ils mènent une vie qu'un cas, ils clochent d'un pied et de l'autre, et ils ne répondent pas à un appel, à une exigence de Dieu. Ils mesurent leurs efforts. Ils sont vite fatigués de servir Dieu. Ceux-là, bien sûr, ont la vie éternelle, ils sont sauvés par le sang de Jésus. Mais Dieu a voulu faire une différence. Il y a des couronnes à recevoir sur la tête pour ceux qui ont servi avec un cœur pur, véritable, un cœur engagé, qui ne recule pas devant l'effort, dans le don de soi. Il y a des personnes dans les chrétiens qui offrent leur vie au Seigneur. Et les autres, oui, ils ont cru, ils sont sauvés, ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont une certaine foi en Jésus-Christ que je ne remets pas en question, ils ont été scellés par le sang de Jésus, ils sont inscrits dans le livre de vie, mais, combien de couronnes éventuellement recevront-ils ou en auront-ils une? Vous savez, dans les écoles, un jour, j'étais à la distribution de la remise de prix. Les prix, c'était des livres, c'était des dessins, etc. C'était des belles choses, des peintures, pictures, hein, offertes par le chef de l'école aux élèves méritants qui avaient bien travaillé. Bon, eh bien, un office avait fait des coups vaches, il avait fait des mauvaises choses à l'égard d'un des professeurs. Et il n'avait pas respecté son professeur. Et moi, j'étais à distribution. Beaucoup de gens de sa classe ont eu des prix. Il avait lui-même réussi. On lui a donné le diplôme, on ne lui a rien dit. On lui a déposé le diplôme dans la main et puis il est rentré à sa place. Il n'a pas été félicité et il n'a pas reçu de prix. Eh bien, il se pourrait... Et c'est plus tard, si vous voulez, j'ai regardé dans la salle où était ce professeur que mon fils n'avait pas respecté et je ne l'ai pas vu. Donc nous sommes repartis à la voiture, nous avions 500 mètres à faire et sur le chemin, mon fils dit « Voilà le professeur ». Honteux, il s'est rangé derrière moi et moi j'ai été vers le professeur et je dis « Monsieur le professeur, vous êtes bien un tel ?»« Oui, je sais ce que mon fils vous a fait subir, il vous a manqué de respect ». Je crois en Dieu, je suis pasteur, je viens vous demander pardon pour lui, puisqu'il ne le fait pas. Je vous demande vraiment de nous pardonner. Ce n'est pas une chose que notre fils devait faire. Je suis venu spécialement à votre école pour vous voir, et je vous rencontre à la dernière minute. Et je vais vous dire, oubliez ce que mon fils a fait, notre fils a fait, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Je n'étais pas digne. Eh bien, oui, ce fils n'a pas eu de couronne, il n'a pas eu de cadeau, mais ce qu'il a, il avait son diplôme. Il avait réussi son cycle d'études. Eh bien, il peut arriver que des chrétiens aient une place au ciel et puis n'aient pas de couronne, n'aient pas de félicitations du Seigneur, ni des anges, ni des saints. Il faut faire attention à cela. Ne négligeons pas la vie céleste, ne négligeons pas les richesses du ciel, ne négligeons pas les bénédictions qui vont au-delà du salut par le sang de Jésus à la croix. Alors je continue à lire ce psaume 21. Il te demandait la vie, le roi, tu lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité. Donc il s'agit non pas seulement du roi David, mais à perpétuité de Christ, évidemment. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Il s'agit bien de Christ, évidemment. Pardon. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Il s'agit évidemment de Christ. Le roi se confie à l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Je pense que c'est le jugement et la colère de l'agneau dont on a parlé la dernière fois, dans Apocalypse. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras, la colère de Dieu. Dieu est un feu ardent, j'en ai parlé dans l'Épître aux Hébreux. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les engloutira dans sa colère et le feu les dévorera. Je vous ai dit que la prédication l'autre jour démarrait sur le thème de la grâce et de la colère. On ne peut pas parler de la grâce sans omettre le fait de la colère divine. Et on ne peut pas parler de la colère sans la grâce. Alors, verset 11, « Tu feras disparaître leur postérité de la terre, leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance. » La seule flèche qui clouera Satan et tous ses serviteurs, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est la victoire de Christ. Satan et tous ses acolytes et ses serviteurs, autant les anges, les démons, les anges révoltés que les humains, seront en enfer. Tu les feras disparaître leur postérité de la terre, leur race du milieu des fils de l'homme. Et il restera dans le royaume de Christ les élus, ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. Le psaume est évidemment plein de richesses. Et j'en ai lu quelques autres. En général, quand un psaume est là, et il y a un thème très fort, il y a d'autres psaumes alentour qui ont le même thème. Et donc, dans la voiture, en attendant ces braves Ukrainiennes, je ne me suis pas ennuyé, j'ai trouvé que Dieu était riche dans sa parole, et ça m'a fait du bien. J'étais fatigué de ma journée, un peu parfois c'est dur, on traîne les pieds, eh bien la parole de Dieu me redonne le courage et la vie. L'impact, le tonus, la parole de Dieu. Alors, nous allons continuer la réflexion de l'autre jour, grâce et colère de Dieu. Donc, nous allons aller dans la première épître de Jean au chapitre 2. Première épître de Jean, au chapitre 2, verset 18. Excusez-moi, je ne fais pas un rappel de tout ce que j'ai dit la dernière fois, c'était trop, il y a beaucoup de citations bibliques. Retournez sur la prédication, elle est sur Facebook, hein, elle est conservée. Prenez des notes, prenez un cahier, étudiez la Bible sur la base de ce que j'ai dit, aller plus loin, évidemment, c'est la Bible qui doit vous instruire, c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui instruit. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Eschaton. L'eschaton, la dernière heure, c'est le moment, à partir du moment où Jésus est ressuscité et monté au ciel, jusqu'au moment où il revient. C'est ça, les derniers temps, la dernière heure. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. La dernière heure est spécifiée par la présence de faux témoins, de faux docteurs, de faux chrétiens qui enseignent des fausses doctrines et qui dénaturent l'évangile. Et parfois, ce sont même des anges de lumière, comme dit Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 11 et 12, des anges de lumière envoyés par Satan, qui se déguisent en ministres de la justice divine. Eh bien, ici, Jean traite le sujet de la même manière. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est normal, à partir du moment où Jésus est parti au ciel, jusqu'au moment où il revient, c'est la période où l'évangile est prêché, où les faux évangiles sont prêchés aussi. Le blé est livré, les boucs et les brebis, de Matthieu 25. La dernière parabole. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ce sont donc des gens qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont accepté le message chrétien et puis qui après l'ont dénaturé, dévié, transformé selon leur folie, leur passion et surtout, je pense, leur manque de vérité. Ils sont sortis du milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Demeurer, meneo, c'est un mot, camper. C'est camper dans le désert, c'est marcher ensemble en présence de Dieu à travers et dans le pèlerinage de la vie, dans les difficultés, comme les Hébreux dans le désert. Et ils seraient demeurés avec nous, ils seraient restés unis et en pèlerinage dans ce monde mauvais vers le ciel, vers les couronnes célestes dont nous avons parlé dans le psaume 21. Ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alors, chers amis, pour vous rappeler que je vous ai déjà enseigné souvent cela, Matthieu 13. Matthieu 13, il y a la première parabole avec les personnes qui reçoivent mal la parole de Dieu. Elles sont soit le chemin très dur ou les buissons épineux. Et puis, il y a ceux qui accueillent la bonne parole avec un cœur honnête, persévérant, qui gardent et mettent en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est la première génération. Mais la deuxième génération, c'est l'autre parabole. La deuxième parabole du chapitre 13 de Matthieu, et j'insiste là-dessus, la semence qui est jetée dans le monde, ce n'est pas la parole. Vous regardez bien à l'explication que Jésus a donnée, la semence, ce sont les chrétiens, eux-mêmes, ceux qui ont accepté la parole de Dieu, qui la vivent, qui la mettent en pratique, qui sont dans le Saint-Esprit, qui obéissent, c'est la semence, c'est les fils du royaume. Et puis, il y a ceux qui ont été semés par le diable, ils ont l'apparence d'être chrétiens, c'est les fils du malin, ils tiennent le même langage, presque en tout cas, que les vrais chrétiens, et ils sèment le trouble, ils sont livrés, le chien dans le champ. Et Jésus, dans cette parabole, indique bien que dans la chrétienté qui va suivre après la première génération, il y aura des imposteurs, des faux docteurs, des faux convertis. Et cela est partout la même chose. Et qu'est-ce que font les faux convertis, les faux docteurs? Eh bien, quand il y a des oppressions, il y a des persécutions, ils renseignent l'ennemi, les vrais chrétiens, pour les faire tuer, pour les persécuter. Donc il faut faire toujours attention. Quand les périodes deviennent difficiles, les faux chrétiens jettent dans les mains des autorités hostiles, jettent les vrais chrétiens. Et les vrais chrétiens résistent par la foi, même s'ils meurent. Ils auront des couronnes d'orpure. Ils ressusciteront, ils seront dans le royaume. Lisez le psaume 21 que je vous ai lu. Donc, il est clair que il y a des antéchrists depuis le début de la chrétienté jusqu'au moment où Jésus revient. Cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc, soyons réalistes, le christianisme, la chrétienté n'est pas quelque chose d'idéaliste, de considérablement magnifique. Il y a du pour et du contre, et il faut savoir où on en est dans notre union et notre communion avec Jésus-Christ. Notre union et notre communion avec Jésus-Christ est le seul moment de lieu de grâce pour nous. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Donc l'onction, l'action puissante, inhérente, et qui est donnée pour toujours dans l'âme du chrétien, cette onction, cette présence de l'Esprit, elle est sainte. Vous avez tous la connaissance, vous connaissez Dieu. Aujourd'hui matin, je prie avec quelqu'un assez tôt, vers 6h, 6h30 du matin, en logé, et il est passé dans des églises sans doute évangéliques, charismatiques avant. C'est un grand ami, hein. Il aime évangéliser, il aime le Seigneur. Mais il priait dans sa prière, je me rappelle qu'il disait, Seigneur, mon Dieu, je te demande que tu donnes le Saint-Esprit, etc., aux gens ici dans la maison et à tous les amis. Mais chers amis, ça c'est une doctrine erronée du mouvement charismatique, du mouvement pentecôtiste. Quand on est converti réellement, qu'on a donné sa vie à Christ, qu'on a reçu l'Esprit Saint, on n'a plus besoin de demander à ce qu'il nous le donne. Dieu a donné une fois pour toutes le Saint-Esprit. Ce qui se passe, c'est différent. On pourrait dire ceci, Seigneur mon Dieu, je te demande qu'aujourd'hui, l'action du Saint-Esprit soit puissante dans nos vies et nous garde en union avec Christ. Oui, là ça tient la route. Mais on ne remet pas en question le don de Dieu. Paul le dit bien dans Éphésiens, nous avons été scellés dans le Saint-Esprit, nous avons reçu les prémices du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas dire, Seigneur mon Dieu, quand on est chrétien, donne-moi le Saint-Esprit. À moins qu'on soit un catholique, un protestant ou quelqu'un qui n'a encore rien compris à la parole de Dieu, à la doctrine biblique. Mais quand on a la doctrine biblique, on ne peut pas redemander tous les jours à ce que Dieu donne le Saint-Esprit. Parce que Dieu n'est pas idiot. S'il l'a donné, c'est le plus grand cadeau du ciel. S'il l'a donné à quelqu'un pour en faire son enfant, c'est clair, il n'a pas tiré au soir ou pendant la nuit. Il se peut que le chrétien, par négligence, par superficialité, ne lise pas la parole de Dieu, ou n'obéisse pas à la parole de Dieu, et que l'œuvre de l'Esprit Saint est attristée en lui. Attristée! Mais l'œuvre de l'Esprit Saint n'est pas anéantie. On ne brise pas Dieu. On ne brise pas Dieu. Alors, continuons. Dans 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc, la vérité, en nous, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, aucun mensonge ne vient quand on est uni à Christ. Si on a une véritable union à Christ. Il y a beaucoup de gens dans des églises, même parfois des responsables, ils ne connaissent pas Christ. C'est malheureux. C'est malheureux à dire. Ils parlent de Christ, ils ont des doctrines dans la bouche, etc. Ils prêchent et ils marchent sur les pieds de Christ. Ils ne le voient même pas. C'est lamentable. Mais c'est la réalité. Alors, il y a pire que ça, parce que si c'est par ignorance, par manque de formation ou manque de profondeur, manque de consécration que ces choses arrivent, il y a pire que ça. Il y a des gens qui aiment le mensonge et qui n'ont pas envie du tout d'avoir une véritable communion avec Jésus-Christ. Ils ont envie d'avoir dans la bouche, dans l'esprit, les pensées de la Bible, parce que ça leur plaît, parce qu'ils ont envie de faire de l'évangélisation, ils ont envie de faire des adeptes. Ils ont envie de faire une église, etc. Mais ceux-là ne sont pas forcément en aura posant de Dieu, au nom de Dieu. Regardez ce que Jean dit, 1er épître de Jean, Donc, chapitre 2, verset 22. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus-Christ, Jésus est le Christ? Donc, Christos, ça vient de en grec, Messia, loin, l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu sur terre, le Fils de Dieu. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu, et Dieu venu sur terre? Le Messie, l'envoyé, incarné. Alors, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, de la bouche de Jésus évidemment, hein, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il a faite, c'est la vie éternelle. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction, donc la présence du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit que vous avez reçu de lui, donc de Christ, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus est, tout ce qui est conforme à la parole, à la révélation dans les Saintes Écritures, comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Bon, l'onction du Saint-Esprit donne des enseignements. Depuis le début de la conversion et jusqu'à la fin de la vie, jusqu'au face-à-face avec le Seigneur. Nous voyons bien, chers amis, que la grâce est opérante. La grâce est fonctionnelle, elle est un cadeau immérité, elle est grandiose pour conduire quelqu'un dans la véritable communion et dans la véritable gloire de Dieu. Prenez Éphésiens, chapitre 2, je pense. Non, chapitre 1. Chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Donc, ici, Paul, il parle aux chrétiens d'Éphèse, qui, quelques années plus tard, ne vont plus avoir de communion avec Jésus. Ils sont contents, ils ont une belle église, ça fonctionne bien, ils ont des réunions, ils ont des belles prières, etc., des beaux habits liturgiques, etc., des beaux rassemblements, des beaux leaders, des bons responsables, ils sont pas malhonnêtes, ils trichent pas, ils se conduisent pas mal, pas de manière désordonnée au niveau de la sexualité, du libertinage, la débauche. Non, ils sont sérieux, mais ils n'ont pas d'amour pour Jésus, ils ont confiance en eux-mêmes, ils ont confiance dans leur église, ils ont confiance dans leur éthique, dans leur morale, mais la personne de Jésus même, elle s'est évanouie de leur cœur, cette communion avec Dieu, lui-même. Vous savez, dans la semaine, on est toujours remis en question dans la prière, dans l'adoration, on est toujours remis, parce qu'on est lamentable par soi-même. Et j'ai découvert quelque chose, à 74 ans, 74 ans, j'ai découvert quelque chose. J'ai toujours la foi dans le Seigneur, j'ai une très grande foi dans lui. J'ai vu des tas de signes, des tas d'œuvres de Christ. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert cette semaine. Le reste de ma vie, je dois lui faire plaisir. Je dois faire plaisir à Jésus-Christ, à Dieu le Père, au Saint-Esprit. Faire plaisir à Dieu, c'est gratuit. Ça montre réellement. Quand, vous savez, un enfant aime sa maman, son papa. Il va cueillir des fleurs dans le champ, il leur rapporte. Parce qu'il aime faire plaisir à sa maman, son papa. Oui ou non? Avez-vous fait la différence entre un enfant qui n'amène jamais de fleurs, ou un mari qui n'amène jamais de fleurs à sa femme, ou une femme qui ne s'habille jamais jolie un petit peu pour son mari? avez déjà vu ces gens qui ne font jamais plaisir à leurs prochains, dans les couples, dans les enfants vis-à-vis des parents? Mais c'est tristouné des familles pareilles. Eh bien, ça existe chez les chrétiens. Il nous faut chercher à faire plaisir à Dieu. C'est là le sommet de l'amour. C'est gratuit, c'est désintéressé. Et quand on a cette joie de faire plaisir à Dieu, qu'est-ce qu'on est heureux soi-même? Alors, je continue dans Éphésiens. Cette église qui a bien démarré, Paul est en train de dire, il insiste, il connaît déjà les défaillances, les risques potentiels de cette église. Parce qu'elle habite une ville riche, prospère. Donc, il y aura certainement des gens qui viennent et qui sont assez aisés, hein, et qui vont amener un esprit de contentement en soi-même. Pas de contentement en Dieu. Et ça va pourrir l'affaire. Alors, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Chers amis, relisez ces versets, Éphésiens chapitre 2, versets 16 à 19. Connaître l'infinie grandeur de sa puissance, connaître avec les yeux du cœur l'espérance, la grandeur de son appel, la grandeur de son amour pour nous, de sa consécration à la croix, de son cadeau du Saint-Esprit, de son amour permanent aujourd'hui, et du ciel de gloire qui nous attend. Et s'il n'y a pas ça, chers amis, s'il n'y a pas ça, ben il y a autre chose. Galates chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, Galates chapitre 4, verset 28, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc, faites à Abraham, Isaac et Jacob la promesse de Christ, la promesse du Saint-Esprit, la promesse de la vie illuminée par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et un jour, dans la gloire du Père, du ciel, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, donc le croyant charnel, persécutait celui qui était né selon l'Esprit, l'Esprit divin, ainsi en est-il encore maintenant. Ainsi en est-il encore maintenant. Voilà un verdict tranché. Il y a dans vos assemblées en Galatie, au milieu de la Turquie, des gens qui persécutent ceux qui sont nés de nouveau et qui sont humblement en communion avec Christ et à son service. Il y en a parmi vous. Et voilà. Et qu'est-ce que dit Paul? Il ne dit pas du mal de ces gens-là. Mais c'est livré. C'est la deuxième parabole de Matthieu 13. C'est les fils du malin qui grandissent dans le même champ que les fils du royaume. Alors, il faudrait être quand même stupide pour croire que Dieu est aveugle et ne voit pas ça, et ne sait pas ça, puisqu'il l'a annoncé lui-même, et qu'aujourd'hui il ne voit rien, et que demain et après-demain, lorsque viendra la venue de Jésus, il n'y aura pas de colère de l'agneau sur ceux qui ont menti. À deux reprises, dans Apocalypse 22 et 21, il est dit « Dehors, les lâches, les menteurs, les idolâtres, les abominables, les enchanteurs. » Mais ça commence d'abord par les lâches, ceux qui n'ont pas l'amour de renoncer à leur péché. Ils veulent chrétiens sans renoncer à leur péché, à leur convoitise. La deuxième chose, les menteurs. Nous venons d'en parler. Et donc, il faut savoir que la parole de Dieu a des grandes exigences au niveau de la vérité de vie, vérité du cœur, vérité de l'esprit. Quand vous voulez vous brosser les dents, vous allez à une rencontre, à une fête, vous brossez les dents, vous vous peignez, vous vous lavez, vous cherchez à plaire. Si vous êtes devant Dieu, cherchez à plaire aussi, faites-lui plaisir. vivez dans la vérité, sa vérité, pas celle qu'on se force à soi-même. Donc j'ai pris ce texte de 1er Épître de Jean, chapitre 2, verset 18 à 29. Ne négligez pas, retournez-y. Et je vous ai dit que la contraction, l'action contraire à l'Évangile, a été puissante à travers toute l'histoire du christianisme durant 21 siècles. Et elle continue. Il y a une action contre la vraie foi qui se manifeste par des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des organismes, des institutions, des symposiums, des grandes dénominations qui se disent chrétiennes et qui ne supportent pas les chrétiens nés de nouveau, qui s'attachent uniquement à la personne de Christ et à sa parole. Je n'en dirai pas plus, mais cette contre-action, cette rébellion contre la vérité est majoritaire dans ce qu'on appelle la chrétienté. Dans Marc 13, verset 6, je me posais la question, chers amis, est-ce que je parlais comme ça régulièrement dans telle ou telle église que je visite, je ne serais pas jeté dehors au bout de 5, 6 mois ou 10 mois? Je pense que oui. Parce que ça serait insupportable pour la plupart. Ou alors ils partiraient autre part et on resterait, au lieu d'être 80, 100 ou 150, on resterait à 10 ou 15. Oui. C'est clair. Il est très difficile de servir le Seigneur. Parce que l'homme est hostile dès qu'il voit la vérité, qu'il le remet en question. Marc 13, verset 6. Plusieurs viendront sous mon nom, disant « c'est moi » et séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront sous mon nom, disant « c'est moi » et séduiront beaucoup de gens. Chers amis, tout ce chapitre 13 parle bien sûr de la période qu'on est en train de traverser. Mais il est clair, au verset 11, voici un verset qui nous invite, je vais prendre au verset 10 plutôt, qui nous invite à la confiance. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand moi je vois que l'Évangile est prêché dans le Pakistan, dans d'autres pays musulmans, je vois que la parole de Dieu s'est exécutée, elle est à l'œuvre, et que ceux qui sont consacrés à cela sont de véritables enfants de Dieu. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. On voit que à travers les périodes de difficultés énormes que ont connu des chrétiens à travers les siècles, les vrais chrétiens, et encore aujourd'hui, les vrais chrétiens dans beaucoup de pays, il y a une action puissante du Saint-Esprit qui émet, à travers la personne, le vrai message de l'Évangile. Et pas des fredaines, des blagues, un faux Évangile. Mais il émet ceci. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, c'est un mot grec qui veut dire « je navigue entre les rochers et j'arrive à arriver à accoster à la côte, les rochers ne m'ont pas fait échouer. J'arrive à travers les épreuves à continuer ma route. » Persévérer. Et évidemment, il faut jusqu'au moment, quand la fin va arriver, c'est clair, on va être soulagé. Hein. Verset 14, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, alors attention, que celui qui lit fasse attention. » Alors, c'est clair, la fin des temps arrive. Et c'est quoi l'abomination de la désolation? C'est quand à Jérusalem, lors de culte, par les juifs orthodoxes, dans un temple reconstruit à côté de la mosquée du Rocher à Jérusalem, Il y aura un antichrist, un homme possédé par Satan, qui va demander à être adoré. C'est arrivé une fois déjà sous Antiochus en 163 avant Jésus-Christ. Antiochus a mis sur l'autel de Jérusalem une truie, un cochon, et il voulait obliger les Juifs à l'adorer. Et ça a été la révolte, une révolte sanglante qui a duré des dizaines d'années, et les Grecs, Antiochus, a perdu. Les Juifs n'ont pas cédé. Et clairement, il y aura une période où, de nouveau, dans le temple, sur l'autel, il y aura quelqu'un, pas une truie cette fois-ci, pire que ça, l'Antichrist, le dirigeant du monde, qui va diriger pendant 7 années. Les élus seront enlevés, ne seront pas là. Mais le judaïsme classique, qui se sera fait prendre au piège, va souffrir énormément. Et les chrétiens, je veux dire guimauves, les chrétiens non consacrés à Dieu, qui seront là, qui auront été séduits aussi, vont souffrir énormément. Parce que l'abomination et la désolation, oui, l'abominable sera là, mais la désolation de tous ceux qui se sont laissés berner et qui n'ont pas été enlevés, ils n'ont pas été pris par le Seigneur parce qu'ils n'étaient pas en ordre avec le Seigneur. Ils avaient la foi, mais ils n'étaient pas en ordre. Ils n'accomplissaient pas la volonté de Dieu. Alors, n'est-il pas nécessaire, pour éviter cette sale période, très dangereuse, n'est-il pas nécessaire d'accomplir la volonté de Dieu? Mais comment, me direz-vous? Ben, vous prenez Apocalypse, chapitre 3, et vous avez la mode d'emploi. La mode d'emploi de cette bonne attitude, c'est une église qui l'avait. Depuis le début du christianisme, elle représente, au chapitre 3, l'église de Philadelphie, Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, donc Christ, le véritable, celui qui a la clé de David, donc la royauté, celui qui ouvre et personne ne fermera, donc qui est le chef du royaume, celui qui ferme et personne n'ouvrira, je connais tes œuvres, donc tes engagements, tes actions, etc., tes comportements, jour et nuit. Voici, parce que tu as peu de puissance, donc tu ne corresponds pas aux critères du monde, hein, les critères glorieux, de la richesse des grandes religions, des grandes dénominations, etc., hein, de tout ce qui a pignon sur rue, comme on dit. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Garder ma parole, c'est la mettre en pratique, hein, dans le verbe en grec. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, donc ma personne. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte du ciel. La porte de la gloire éternelle. Auprès du Père. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens, au chapitre 2, nous sommes assis en Christ déjà, parce qu'il a la conviction que pour le vrai chrétien, il y a une place déjà, la place est déjà. Mon nom est déjà marqué avec là la place que j'aurai à côté du Père dans les cieux. Eh bien, lisez Ésaïe 25, verset 6 à 9, vous verrez que toutes les nations se réunissent là, dans un immense banquet, où la mort n'existe plus, ni larmes, ni chagrin, où le voile de la mort est ôté sur toutes les nations, à Jérusalem. Eh bien, c'est cela. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, donc de ceux qui, ayant refusé Jésus, il y en a beaucoup qui acceptent Jésus actuellement, mais il y en a qui n'en veulent pas non plus, de ceux de la synagogue de Satan, donc qui veulent encore faire les rites de Moïse et pas accepter le Messie, Jésus, qui se disent juifs et ne le sont pas, puisqu'ils n'ont pas accepter les promesses faites à Abraham, la promesse, la postérité promise à Abraham, c'est Christ, Galates chapitre 3. Mais qui mentent, ils mentent. Voici, je ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Donc une conversion foudroyante, une demande de pardon à tous ceux qu'ils ont persécutés. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, donc en la personne de Christ, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Vous voyez la couronne, psaume 21, d'or pur. La persévérance en moi, en Christ, vous voyez que c'est très important. Jésus est désireux de nous avoir en relation étroite, personnelle, véritable avec lui. Et ce n'est pas du bidon qu'il veut, ce n'est pas du semblant. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Le temple de Dieu, dans Apocalypse, au chapitre 22, ce n'est pas un temple matériel. C'est Dieu le Père, c'est Christ le temple de gloire parmi les hommes. Nous serons comme des colonnes, droits, debout, dans la gloire de Christ et du Père. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, est mon nom nouveau, mon nom écrit sur mon front, le nom de Jésus. Et vous voyez, lisez chapitre 20, 21, 22 d'Apocalypse, ça correspond à tout ça. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous voyons donc que, clairement, chaque fois dans l'Apocalypse, chaque message de Christ aux sept églises, fidèle ou infidèle, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, si une église entend quelqu'un, les remet en question, au nom de la vérité, au nom de Christ, et qu'il se laisse toucher par le Saint-Esprit, ces personnes, ces églises sont gagnantes. Mais si ces églises refusent l'esprit de la prophétie, l'esprit, l'acuité, la vérité pure de la parole de Dieu, et Black Bull rejette les prédicateurs fidèles à la parole de Dieu, il ne reste plus rien pour eux que la colère de Dieu. Alors, nous allons reprendre des autres textes, bien sûr, et nous allons voir Colossiens 2, verset 18. Colossiens 2, verset 18. Oh, dans toutes ces paroles que je vous dis, je ne veux pas faire peur à quelqu'un. Je pense que, si vous voulez, je vois les choses comme ça. Si vous êtes dans une voiture, et il manque deux roues, vous montez dedans, vous mettez le moteur en route et vous voulez avancer. Et moi, je vous dis, avant que vous démarriez, il manque deux roues. Arrête, remets les roues. Ou va chercher après des roues, achète-en. Vous ne m'écoutez pas. Irez-vous loin avec cette voiture. Si vous allez dans une voiture, et c'est une voiture, on n'a jamais regardé à l'huile, ni à l'eau. Cette voiture, le moteur, à un moment donné, dans des côtes, il va exploser. Vous n'arriverez jamais au but. Si quelqu'un vous dit, mais cette voiture n'est pas en ordre, ne monte pas dedans. Il faut que tu demandes à quelqu'un d'autre de te conduire, ou achète une autre voiture. Vous comprenez bien que prendre celui qui vous avertit pour un idiot, c'est à vos dépens. Celui qui vous avertit, il l'a fait gratuitement. Donc, l'esprit de la prophétie est un esprit gratuit. L'esprit du prédicateur, fidèle à Dieu, est gratuit. Il est là pour le bien des chrétiens. Et l'esprit de la prophétie est fait pour que la personne puisse avancer jusqu'au but, dans la communion avec Christ, au but, la gloire de Dieu, du Père. Donc, je prends tous ces textes pour que cet esprit de prophétie vous touche profondément. Colossiens 2, verset 18. Je vais commencer au verset 16. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Vous savez très bien qu'il y a des tas de religions, il faut pas manger ci, il faut manger ça, etc. C'était chez les Juifs, et ils ont transmis ça aux Bédouins, aux Arabes, et puis c'est venu dans l'islam. Et puis même, vous savez, j'ai été éduqué catholique, le vendredi on ne mangeait pas de viande, c'était du poisson, puis il y a le carême, etc. Toutes ces choses-là, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats, les fêtes avec la lune. Mais il y en a beaucoup sur la terre. Réfléchissez bien. Qui se base sur la lune pour faire une fête? Chers amis, Paul dit cela dans les années 48 à 45. Imaginez l'autorité de cet apôtre. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Quand vous vous intéressez à quelqu'un, c'est pas son ombre. Quand le soleil fait l'ombre sur quelqu'un, l'ombre, c'est pas la personne. Vous vous intéressez à la personne, vous vous intéressez à Christ, vous vous intéressez pas à ce qui est à côté. Et c'est clair, le corps est en Christ, la vérité est en Christ, l'Église est en Christ. Hors de Christ, l'Église n'est pas vivante, elle n'est pas son corps, c'est une fausse Église. Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, hein, des révélations spéciales par les anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. J'ai toute une brochure chez moi, de prières aux anges dans l'islam, avec toutes les formules d'invocation aux anges. Ben dis donc, j'ai la même chose chez les catholiques, les prières à l'archange Michel, à tous les anges, à tous les saints. Ben dis donc, qu'est-ce qu'on en a fabriqué, des fausses vérités? Qu'est-ce que les anges ont parlé? Mais quels anges ont-ils parlé? De quels anges parlent? Peut-on dire qu'ils ont parlé? Les anges envoyés par Satan, oui, ont parlé. Les anges de Dieu ne parlent que selon la vérité de l'Évangile. Que personne, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Et dans l'histoire des religions, il y a toujours des fondateurs de mouvements qui ont eu des visions, des révélations. Et qu'est-ce que dit Paul? Il s'est abandonné à ses visions, c'est-à-dire il a suivi son ego, ses fantasmes, ses déséquilibres, voire les impulsions diaboliques qui le sollicitaient. Il est gonflé, prêt à exploser, d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc elles ne sont pas du Saint-Esprit. Sans s'attacher au chef, donc à Christ, dont tout le corps, son Église véritable, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Nous voyons que Paul ici, comme un bon médecin, prend l'image d'un corps humain dont les muscles sont reliés aux os par des tendons et tous les os sont tenus par des muscles, des tendons, etc. Tout est uni, formellement. Vous n'avez pas votre main qui se trimballe à 20 mètres de vous et votre tête à 30 mètres de l'autre côté. Vous n'avez pas une oreille qui est à 100 mètres en hauteur ou en profondeur. Votre corps fait un et le corps de Christ fait un avec Christ. L'unité en Christ, la communion en Christ, développe l'unité en Christ. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, à toutes ces bêtises que les humains apportent par leur vision, par leur fausse doctrine, hein, si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Chers amis, il y avait donc, et je vais continuer puis je vais aller dans Ésaïe pour vous montrer que Dieu avait déjà condamné cela. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Pourtant ça marche bien sur la terre tout ça. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire basé sur la volonté humaine, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle pour Dieu et ne sert qu'à satisfaire la chair, c'est-à-dire l'orgueil humain. Ne prends pas, ne goûte pas. Vous voyez ici dans Colossiens, au chapitre 2, versets 21 et 22. ce que Paul dit. Eh bien, Ésaïe disait la même chose. Jésus a dit la même chose. Ésaïe. Voici ce qui est dit dans Ésaïe, chapitre 28, verset 7 et suivant. Ils chancellent dans le vin, dans les buissons fortes, leur donnent des vertiges. Prêtres, sacrificateurs chancellent dans les boissons fortes. Ils sont dominés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Mais nous allons voir qu'est-ce que c'est. C'est une image, ces boissons fortes. C'est les fausses doctrines. C'est pas le vin, c'est pas le pinard, l'alcool. C'est les fausses doctrines qui les rendent ivres. Ils perdent la raison. Ils chancellent en prophétisant, vous voyez? Ils vacillent en rendant la justice, donc en soi-disant disant ce qui est vrai, juste, bon et mal. Toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Il n'y a plus de place. Donc ils se réunissent, ils font des réunions religieuses, et ce n'est pas plus que du vomi. Ça n'a pas plus de valeur pour Dieu que ça. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple. Donc il y a des gens qui vont revenir apporter la vérité au peuple juif, parce qu'il s'est égaré dans les préceptes et les visions, dans l'ivresse des pensées fausses. Alors, verset 13. Pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, vous, les moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Vous voyez dans ce texte, au chapitre 28, verset 15, que tout ce qui est basé sur des règles artificielles, religieuses, du paraître, volontaristes, sont un pacte avec la mort. C'est-à-dire, ne rapproche pas de Dieu. Confirme une séparation réel avec Dieu. Toute personne qui s'attache à des règles, à un esprit légaliste, et qui veut l'imposer aux autres, confirme son état de séparation éternelle avec Dieu. Vous pouvez lire tout ce texte, le chapitre 28, il est formidable, formidable. Et, bien sûr, Dieu, par la plume, la bouche d'Ésaïe, annonce le Christ. Verset 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'ai mis pour fondement en Jérusalem une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle, de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas quand le fléau débordé passera. Vous serez par lui foulé aux pieds. Réfléchissez bien, chers amis, à ces textes. Parce que moi, je vais terminer. Je vous ai dit que je parlais de grâce et de colère. Réfléchissez bien à ce texte. Il vous montre où sont les égarements humains, religieux. Il vous montre où est la volonté de Dieu, il vous montre qui est le Christ, la pierre angulaire sur laquelle on peut se reposer. Jésus reprend ce verset d'Ésaïe 28 pour lui-même à plusieurs reprises dans Marc et Matthieu et Luc. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, soyons basés sur le rocher, la pierre angulaire, sur la vérité de Christ. Et tout le reste fait partie d'un pacte avec la mort, un pacte avec la séparation éternelle. Tout le reste ne tient, il n'y a rien qui tient la route. en dehors de Christ. C'est pour ça que Paul dit, dans Actes chapitre 7, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre, par d'autres noms par lesquels nous puissions être sauvés. Dans un esprit de grande tolérance et de grands péchés partagés dans notre société, on ne peut pas accepter ces paroles. Mais pourtant, c'est les paroles de Dieu. C'est les paroles de l'Évangile. C'est à prendre ou à laisser. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Pierre, l'apôtre Pierre, qui a aussi l'esprit de la prophétie, comme tous les apôtres, de l'Ancien Testament et les saints apôtres de Jésus-Christ. L'esprit de la prophétie s'est arrêté avec Jean, l'apôtre. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Donc aujourd'hui, je pense que c'est toujours la même chose, une saine intelligence biblique, hein, spirituelle. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Vous imaginez ? Je les souligne en rouge dans ma Bible, les choses annoncées d'avance par les saints prophètes, grâce et colère de Dieu. Et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, donc du moment où Jésus est monté au ciel jusqu'à son retour, eschaton, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, donc des gens qui se moquent du vrai évangile, d'un vrai communion avec Christ, et qui invente des autres fredaines, dites évangéliques, dites spirituelles, dites chrétiennes, ou non chrétiennes d'ailleurs. Il viendra dans les derniers jours des moqueurs avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement, de son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Depuis qu'Adam et Ève sont morts, ben, il n'y a rien de changé. J'ai toujours le même cirque sur terre. Qu'est-ce que c'est de ce Christ dont vous parlez? Il n'a aucun pouvoir. Vous voyez bien, ça continue. Il va revenir. Est-ce qu'il est déjà venu? Vous voyez, voilà les moqueurs et les railleurs. Ils disent, où est la promesse de son retour? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ils veulent ignorer, donc c'est pas seulement ils ignorent, ils veulent ignorer. C'est un choix philosophique, un choix spirituel, c'est le refus de la vérité biblique. Et en cela, Pierre s'appuie sur le psaume 2. Le psaume 2 nous avertit déjà de ce qui était potentiellement à l'œuvre dans ce monde et qui est en train de se confirmer de plus en plus avec les francs-maçons, avec la Rose-Croix, avec les dirigeants de l'Europe, les dirigeants du G7, de l'ONU, etc. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son Messie? Ils disent, brisons les liens, leurs liens, judéo-chrétiens. Délivrons-nous de leurs chaînes, judéo-chrétiennes, bibliques. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, donc Messie, le Christ, mon roi sur Sion, ma montagne sainte, la résurrection. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Chers amis, cette parole veut dire que Jésus, en ressuscitant Jésus-Christ, l'a mis dans une condition telle que toute l'humanité peut connaître une nouvelle vie. une nouvelle vie en Christ ressuscité. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Donc vous voyez la colère de l'agneau. Hein? Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Donc Dieu ne nous prend pas en traître, il nous avertit. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils de peur qu'il nous irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous voyez dans ce psaume, grâce et colère de l'agneau. Que Dieu vous bénisse, nous sommes vendredi. C'est bien sûr avec plaisir que je prendrai prédication. Et c'était aujourd'hui la prédication numéro 70, 70 de l'an 2022. Seigneur notre Dieu, tant d'amour dans votre cœur, Père chéri, tant d'amour pour nous, tant d'amour, vous qui avez envoyé les prophètes, depuis Job, depuis Abraham, jusqu'à l'apôtre Jean d'Apocalypse, vous qui avez envoyé les prophètes, vous envoyez encore aujourd'hui, parfois des hommes et des femmes, annoncer l'évangile à travers le monde, dans leur propre pays ou dans les autres pays. Vous les envoyez avec l'esprit de prophétie, c'est-à-dire du respect de votre évangile. Vous les envoyez avec l'amour de Jésus. Vous les envoyez et ils donnent leur vie pour vous, Père éternel. Tous ces messagers de l'évangile, Seigneur, sont vos serviteurs consacrés. Seigneur, nous les remettons au pied de votre trône. Bénissez-les. Bénissez tous ceux qui apportent l'évangile aux autres. Bénissez tous ceux qui tiennent tête aux menteurs, aux lâches, à l'esprit de la chair. Bénissez ceux qui veulent proclamer la vérité envers et contre tout, pour le bien de tous. Bénissez tous ceux qui ont peur, tous ceux qui reculent, tous ceux qui se sont découragés pour un temps. Bénissez tous ceux qui ne savent plus où ils en sont, qu'ils reviennent à vous, Seigneur Dieu, à la parole, à la consécration, qu'ils crient au secours, Seigneur, et faites leur signe. Bénissez-les, que votre amour se manifeste à eux, dans le Saint-Nom de Jésus et à travers les communautés chrétiennes. Amen. Gloire à Dieu. Et sachez bien que je vous aime. Pépino, Liliane, Mamie, gros bisous. Jean-Christophe et beaucoup d'autres. Gloire à Dieu. Dimanche à notre église, réunion des membres, dimanche après-midi, partage à propos de la maison qui est en vente, partage pour un projet de future maison de prière et de vie, pas loin de chez nous, partage pour l'école, les deux écoles, puisqu'il y en a une pour les Ukrainiens et une pour les enfants, partage pour l'école du Pakistan qui prend de l'importance, partage pour les camps, le camp d'été des enfants, pour toutes les personnes qui vont passer ici, partage dans la prière et la foi. Et la Sainte Cène, dimanche après-midi. Dieu vous bénisse pour les membres de notre assemblée. Amen.